Comme vous le savez, chaque prédicateur a ses marottes. Il a ses textes préférés. Et le danger, c'est que souvent, les textes préférés sont ceux qui ressortent dans ses prédications. Eh bien, ce matin, je vais vous parler d'un livre de la Bible que j'aime pas. Les enfants, ils disent « j'aime pas les brocolis ». Eh bien, moi, il y a un livre de la Bible que j'aime pas. Vous savez lequel? Non. Non, pas les Lamentations. Pas Ézéchiel.
Pardon?
Non, pas Zacharie, non. Non. Ah ouais. Ben, il s'agit de l'Ecclésiaste. J'aime pas les brocolis, j'aime pas l'Ecclésiaste non plus. Enfin, j'aime les brocolis maintenant. Quand j'étais petit, je les aimais pas. Et finalement, j'ai appris à aimer l'Ecclésiaste. Alors, bien sûr, on va pas lire les 16 chapitres là ce matin. Non, d'ailleurs, il n'y en a que 12. Mais même 12, c'est un peu long. Mais je vous propose de lire le début. Ecclésiaste, chapitre 1er. On va lire le premier chapitre et puis quelques versets grappillés comme ça dedans. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. T'es pas n'importe qui, hein? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, ainsi va le vent et le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se rassasie pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on peut dire « voici, ceci, c'est nouveau » ? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront par la suite. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël, à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil, sous le ciel, pardon. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être porté au compte. J'ai dit en mon cœur, ainsi, moi, j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de science, plus on a de tourments. Chapitre 2. J'ai dit à mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. Verset 14. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu qu'un même sort les attend tous les deux. C'est très motivant, hein. Verset 15. J'ai dit à mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra moi aussi. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car, chapitre 3, verset 19. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils ont tous le même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout provient de la poussière, et retourne à la poussière. Chapitre 6, verset 7. Toute la peine de l'homme est pour sa bouche, et pourtant son gosier n'est pas rempli. Chapitre 7, verset 20. Il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Voilà un petit aperçu de ce livre. Alors, quelle impression vous ressentez à la lecture ? Un grand réalisme. Un grand réalisme, oui. J'ai entendu pessimisme. Quelqu'un a dit pessimisme ? Bon. Moi, j'ai trouvé un peu ça, oui. Impression générale, pessimisme, ton blasé. Je veux bien un verre d'eau aussi.
Merci.
Merci beaucoup. Ah, ça fait du bien. Un ton désabusé. On voit que l'homme, l'auteur qui se présente comme un roi régnant à Jérusalem, on pense à Salomon, il se dit riche, il se dit puissant, il se dit sage. On voit qu'il a goûté un peu à tout pour essayer de trouver un sens et qu'il n'en trouve pas. Quel profit durable l'homme retire-t-il de sa peine sous le soleil ? Alors il fait un peu l'inventaire. Les richesses, non. Les plaisirs, non. Le savoir, ça ne marche pas. Le progrès, il n'y a pas de progrès, c'est du déjà vu. La sagesse, un même sort pour tout le monde. Et finalement, la mort et la fin de toutes choses sous le soleil. Moi, c'est un livre gueule de bois. Hein? Et on a l'impression qu'il a fait la fête, et puis le lendemain, il se dit, mais à quoi bon tout ça, quoi. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait dans notre Bible, ce livre ? Est-ce qu'il a sa place ? C'est vraiment la question que je me posais quand j'étais ado. En disant, mais non, on aurait dû l'enlever, celui-là. Enfin, il n'y a rien de motivant là-dedans. Est-ce que les sages de l'Antiquité qui ont mis les livres dans la Bible se sont trompés ? En fait, à l'époque de Jésus, ce livre était vraiment considéré comme faisant partie de la parole de Dieu. Après Jésus, il y a eu parmi les Juifs quelques voix dissonantes en disant on devrait l'enlever. Voilà. Mais en fait, au temps de Jésus, on considérait bien que ce livre avait sa place dans la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut lui trouver un plan ? Quand on cherche le plan, on commence à être un tout petit peu rassuré. Quatre premiers chapitres, tout est vanité sous le soleil. Chapitres 5 à 11, tout est vanité, mais moi qui suis sage, enfin c'est pas moi, hein, c'est celui qui écrit, hein, je peux quand même vous donner quelques conseils. Et chapitre 12, c'est en se souciant de son Créateur qu'on trouve l'explication de toutes les interrogations qu'on s'est posées jusque-là. Ah ben oui, quand même. Oui, elle dit, hein, Véronique, elle dit, ah ben oui, quand même. Alors, il y a des expressions qui reviennent. L'expression « sous le soleil », 30 fois dans le livre. Et on ne le trouve jamais dans un autre livre que l'Ecclésiaste. « Sous le soleil », ça veut dire « à notre niveau d'homme ». Sans chercher plus loin que ce que l'expérience, que ce le palpable peut nous donner. Et puis, il y a l'expression peut-être la plus connue de l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité », 28 fois dans le livre. Ça veut dire ce qui est dérisoire, ce qui est futile, ce qui ne sert à rien, ce qui n'est que fumée. D'ailleurs, en parlant de fumée, une autre expression qui revient, c'est « poursuite du vent ». Je ne sais pas si vous avez essayé de poursuivre le vent un jour, c'est particulièrement intéressant. Et puis, il y a le terme « j'ai vu » qui revient aussi beaucoup. L'expérience de celui qui se contente de regarder. Et ces expressions expliquent le ton désabusé du livre. Celui qui se contente d'observer ce qui se passe sous le soleil ne peut être que triste. Ce livre suit le chemin inverse des autres livres bibliques. Celui-là, il s'arrête, au moins dans ses 11 premiers chapitres, il s'arrête à ce qui est visible. Et ça explique donc le pessimisme de l'auteur. Il est pessimiste parce que si on se limite aux seules capacités de l'homme, à ce qu'on voit, de toute façon, c'est la mort à la fin. Si tout s'arrête à la mort, à quoi bon ? Et beaucoup de nos contemporains se heurtent au même mur. Si on se contente d'observer le visible, le matériel, le palpable, on ne peut que déchanter. Beaucoup de soucis, quelques joies éphémères, finalement la mort et l'oubli. Alors on comprend que se contenter de voir ce qu'il y a sous le soleil, c'est justement le contraire de la foi. Et l'Ecclésiaste va nous brosser l'antifoi pour mieux nous faire ressortir ce que c'est que la foi. La foi, c'est de constater que Dieu nous dépasse et de lui faire confiance. C'est de constater que beaucoup de choses ne nous sont pas palpables, ne nous sont pas visibles, et que ces choses-là sont importantes. Je vais vous citer un auteur qui va aussi sembler incongru, Saint-Exupéry, mais le Petit Prince, il dit « l'essentiel n'est pas visible avec les yeux, on le voit avec le cœur ». Alors, ce n'est pas une parole biblique. Mais une parole biblique, c'est Hébreux 11, verset 13, qui dit « c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit provient de ce qui n'est pas visible. » Et il donne ensuite l'exemple de Moïse, qui dit « c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir une jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Il regardait plus loin, il regardait vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Car il tint ferme comme voyant ce qui est invisible. » La foi, c'est voir ce qui est invisible. Faire confiance à ce qui est invisible. Et c'est bien ce que la dernière partie du livre veut nous faire comprendre. Se limiter à ce qu'on voit débouche sur le pessimisme. Mais regardez plus haut, regardez plus loin. Là est la vraie sagesse. Alors, il ne faut pas tout à fait attendre la fin du livre pour avoir quelques phrases qui annoncent déjà ça. Chapitre 3, verset 11, l'Ecclésiaste dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. » Si les hommes recherchent plus loin que ce qu'ils voient, et tant mieux, si vous qui êtes là, vous êtes assis là dans une église, si vous êtes assis dans une église, c'est que vous êtes allé chercher plus loin que ce qui est palpable. Et si vous l'avez fait, c'est parce que Dieu a implanté dans votre cœur le sens de l'éternité. Je crois que c'est Pascal qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un creux, un trou en forme de Dieu, quelque chose qui aspire à être rempli. Et l'Ecclésiaste continue, il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, et pourtant l'homme est incapable de saisir l'homme que Dieu accomplit du commencement à la fin. Un peu plus loin, Ecclésiaste 3, 14, « Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Considère l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Un peu plus loin, voici la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des complications. Et l'Ecclésiaste va nous donner lui-même la conclusion. On va tout à la fin du livre, chapitre 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi. Et c'est même valable pour les dames et pour les dames un peu moins jeunes. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore ne sont que vanité. Tiens compte de ton Créateur. Au temps de ta jeunesse, avant que, et là il y a toute une description, bien imagé sur ce qui nous attend tous, hein. Les oreilles qui marchent moins bien, les yeux qui ont besoin de lunettes, les pas qui se fait trébuchant, voilà. Enfin, bon, je vous laisse découvrir c'est enthousiasmant comme tableau de la vieillesse. Non. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que la poussière ne retourne à la terre d'où elle était venue et que le souffle ne remonte vers Dieu qui l'a donné. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours, c'est le verset 13. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Il y a une impasse. Tant que l'homme s'en tient à regarder uniquement ce qui se fait sous le soleil. L'explication, l'intérêt de toute chose se mesure dans l'optique de l'éternité, dans l'optique du jugement de Dieu. Ici, le jugement, ce n'est pas une menace. C'est celui qui explique tout. Et Dieu, dans ce texte, Dieu reconnaît qu'il est à l'origine des difficultés de l'homme. Il donne les soucis pour humilier la pensée hautaine des hommes qui pensent être la source de toute chose, de toute connaissance, de toute sagesse. Et il en donne l'issue. Ce qui compte, ce n'est pas le regard que les autres portent sur moi. Ce n'est pas le regard que je porte sur moi. Ce n'est pas le regard que je porte sur Dieu. Ce qui compte, c'est le regard que Dieu porte sur moi. Alors, que veut faire comprendre ce livre, finalement? Heureusement que vous avez suivi les conseils de ce livre. Parce que si vous êtes aujourd'hui dans une église, c'est parce que ce qui se fait sous le soleil ne vous satisfait pas. Finalement, chacun de nous, dans notre cœur, nous avons fait le même chemin que l'Ecclésiaste. Dans ce monde, tout est vanité, tout est poursuite du vent, tout est futile, tout disparaîtra. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est sous le soleil, c'est le Créateur, c'est Dieu qui donne un sens à toute chose. Alors, Jésus va reprendre les pensées de l'Ecclésiaste, ou du moins, et nous donner trois phrases qui sont des illustrations. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et puis cette deuxième phrase, ne cherchez pas le sens de la vie dans des microscopes ou dans des télescopes ou dans une activité quelle qu'elle soit. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et puis enfin, devant le tombeau de Lazare, cette belle phrase de Jésus qui va à contre-courant de ce que le monde nous dit. Le monde nous dit, si je vois, je croirai. Je crois que ce que je vois. Mais l'Ecclésiaste nous a avertis, si vous croyez que ce que vous voyez, c'est fini, ça se terminera par une pierre tombale. L'Ecclésiaste nous avertit, ce chemin, c'est une impasse. Circuler, il n'y a rien à voir. Rien de ce qu'on voit sous le soleil ne pourra remplir votre vie, ne pourra vous renseigner sur la personne précieuse qui se trouve au-delà du soleil, au-delà de la création visible. Si tu crois, tu verras. Souviens-toi, souvenons-nous de notre Créateur et faisons-lui confiance.